Bienvenue dans le podcast de Positive Compagnon, le label RSE Made in France. Dans ce podcast mensuel, nous aborderons les grands sujets de société et mettrons en lumière les solutions concrètes pour résoudre les principales problématiques sociales, sociétales et environnementales. N'hésitez pas à partager nos émissions à vos proches et à vous abonner à notre chaîne. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons parler gestion des risques et de qualité de vie au travail. C'est un secteur qui intervient dans la prévention et la gestion des risques liés à la sécurité, à la santé, à l'environnement, aux catastrophes naturelles et à d'autres événements potentiellement dommageables pour les personnes, les entreprises et les communautés. Dans ce contexte, les enjeux RSE sont cruciaux car ils peuvent avoir un impact direct sur la sécurité, la santé et le bien-être des individus, ainsi que l'environnement et la société dans son ensemble. Et gérer les risques à l'heure du dérèglement climatique, c'est pas une mince affaire. Le secteur de la gestion des risques a une responsabilité importante en matière de santé et de sécurité au travail, non seulement pour leurs collaborateurs, mais aussi pour les clients et communautés avec lesquels ils interagissent. La protection de l'environnement est également un enjeu clé dans ce secteur, car les activités de gestion des risques peuvent avoir un impact significatif sur leur écosystème et vice-versa. Nous tendons notre micro à Vincent Giraudot, qui a fondé en 2002 Iseis, un bureau d'études spécialisé dans la qualité de vie au travail, labellisé Positive Workplace depuis fin 2021 ou 2022, j'ai plus les chiffres en tête, mais de cet ordre-là. Vincent, nous avons c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui. Habituellement, vous demande à nos invités de se présenter succinctement. Eh bien, je vais déroger à la règle ce coup-ci parce que Vincent, vous avez un parcours qui, on peut dire, est inhabituel. Je vous laisse vous présenter, Vincent.
Oui, en effet, j'ai un parcours un petit peu atypique, même si aujourd'hui, de plus en plus de parcours le sont. Donc moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 1996. Donc j'avais obtenu un DUT Hygiène, Sécurité, Environnement pour faire plaisir à mes parents, le fameux « passe ton bac d'abord ». Et je les remercie tous les jours d'ailleurs. Et puis, j'ai tout abandonné pour réaliser un rêve d'enfant, puisque je rêvais de devenir artiste dans l'univers du spectacle vivant. Et c'est ce que j'ai réalisé en 1997, où je suis devenu artiste au sein de la compagnie Alexis Grus, donc acrobate, jongleur, danseur sur corde, etc. Et puis, au bout de 5 ans, j'ai eu 2 accidents assez graves qui m'ont obligé à réorienter ma carrière. Et donc, sur mon lit d'hôpital, vraiment, j'ai créé mon entreprise parce qu'en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain qui m'apporte autant de satisfaction que ce que j'ai vécu dans le spectacle vivant? Je me suis dit, rien, hormis quelque chose que je vais créer moi. Donc en fait, je vais créer mon entreprise et quel que soit ce qu'elle fera, cette entreprise, je vais y mettre les ingrédients que j'ai eu et que j'ai vécu dans cet univers-là. Donc je me suis dit, je vais créer une boîte avec que des artistes à l'intérieur. Voilà. Et donc, j'ai créé Iseis en septembre 2002. Donc, on vient d'avoir 20 ans. Et donc, c'est une petite centaine de salariés répartis sur toute la France. Voilà.
Pas de bêtises, vous avez fêté vos 20 ans dans un lieu qui est assez mythique, non?
Oui, forcément, on a fêté ça sous le chapiteau des Folies Grusses parce que je ne pouvais pas faire autrement que d'organiser un spectacle pour faire le lien finalement entre mes deux vies. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais maintenant depuis quelques années, puisque j'ai créé une autre entreprise où je viens raconter toute cette histoire et comment j'ai capitalisé sur toutes les valeurs que j'ai apprises dans le spectacle vivant, d'humilité, de persévérance, de confiance, de passion, et comment je l'ai transposé dans l'univers de l'entreprise qu'on pourrait appeler classique et qui fait que globalement, ça fonctionne. Et donc, j'essaie de partager ça maintenant dans les entreprises via des conférences spectacles, en fait.
Alors, on va revenir un peu plus sur Iseis en tant que tel. Pour le commun des mortels, parce qu'on n'a pas forcément qu'un auditoire professionnel, c'est quoi votre métier chez Iseis, concrètement?
De manière très concrète et simple, notre métier, c'est de faire en sorte que chez nos clients, il n'y ait pas d'accident de travail. Donc, en fonction des secteurs d'activité, je pense par exemple au BTP où on a quand même un secteur qui est beaucoup plus dangereux que d'autres. On est vraiment là pour gérer et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident de travail grave. Et puis après, il y a certaines entreprises dans le secteur tertiaire ou plutôt industriel où là, on va aller au plus fin et plutôt travailler justement sur ce qu'on appelle aujourd'hui la qualité de vie au travail, les conditions de travail. Donc, c'est vraiment faire en sorte que les gens travaillent dans de meilleures conditions, même s'il n'y a pas des accidents tous les jours. Mais en gros, c'est vraiment améliorer les conditions de travail des salariés. Et on parle plutôt, nous, de prévention, c'est-à-dire qu'on intervient vraiment en amont pour faire en sorte que tout se passe bien le jour J et éventuellement, le jour J, quand même, gérer les aléas, ce qu'on appelle, nous, les écarts entre le prescrit et le réel, parce qu'il y en a toujours, j'allais dire, heureusement, parce qu'on est des êtres humains.
Alors, justement, par essence même, on pourrait dire que vos activités s'intègrent bien dans les sujets RSE, notamment de santé et de protection de l'individu. Mais est-ce que vous avez pu structurer ces sujets-là en interne et quels sont les enjeux auxquels vos activités font face aujourd'hui sur ces sujets-là?
Bah, la particularité, nous, c'est que notre métier, il évolue tous les jours. Un, parce qu'il y a des réglementations qui évoluent. Deux, parce qu'il y a des attentes des salariés qui évoluent. On le voit avec plein de sujets, par exemple le télétravail qui a complètement bouleversé le travail. Et donc, comme le travail évolue énormément en ce moment, bah, les conditions de travail évoluent. Et donc, potentiellement aussi, les bonnes ou les mauvaises conditions de travail qui peuvent avoir des conséquences en termes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles, et qu'elles soient physiques ou psychiques, bah, tout ça, ça évolue. Et nous, on doit s'adapter. Donc, on est de plus en plus, enfin, de moins en moins sur des aspects techniques et réglementaires, et de plus en plus sur des aspects humains et organisationnels. Et c'est là, en fait, toute la difficulté de notre métier, mais aussi toute sa richesse. C'est vraiment qu'on agit sur les humains, l'organisation du travail, pour faire en sorte que ça fonctionne bien.
Et justement, on vient de traverser une période Covid qui va probablement perdurer, mais qui, en tout cas, s'est stabilisée sur ses impacts. Quel impact, quel effet ça a eu sur vos activités et sur la manière dont vous allez travailler avec vos clients?
Bah, au départ, ça a bien bouleversé quand même ce Covid. Ça a remis en question énormément de choses, c'est-à-dire des règles qu'on avait mis du temps à établir.
Par exemple?
Et puis, par exemple, on sait que nous, dans ces métiers-là, le contact est hyper important. Donc, plus on rapproche les gens, plus ils peuvent discuter entre eux, plus il y a de cohésion dans le boulot, et donc moins il y a de couacs et donc d'accidents. Et puis là, d'un coup, on dit qu'il faut séparer les gens. C'est exactement d'autres petites choses qu'on a pu voir au niveau environnemental, où d'un coup, le covoiturage, on arrêtait tout, alors que pendant des années, on avait essayé d'expliquer que c'était vachement bien. Donc voilà, ça a un petit peu bousculé, même si on est revenu après à nos fonctionnements normaux. Et puis surtout, on a un nouveau risque qui est arrivé dans la vie de tous les Français. La particularité sur ce risque-là, c'est qu'il ne s'arrêtait pas aux portes de l'entreprise. Donc finalement, au départ, il a été très compliqué à gérer. Et puis par la suite, il est tellement devenu commun et quotidien, même un enfant de 6 ans aujourd'hui, il connaît les gestes barrières, tout ce qu'il faut faire. Donc c'est rentré dans les mœurs et c'est plus un sujet, quoi.
Et puisqu'on parle de risque aujourd'hui, est-ce que les sujets de risque environnementaux font partie du scope sur lequel vous travaillez ou pas du tout? Ou est-ce que vos clients déjà sont sensibles à ces sujets-là?
Si on intervient sur quelques sujets environnementaux, notamment sur les chantiers de BTP, parce qu'il y a pas mal de sujets qui sont assez similaires à ce qu'on gère sur la partie santé, sécurité au travail. Et puis qu'on est très très présent sur le chantier. Donc du coup, notre présence fait qu'on a l'accès à pas mal d'informations et ça nous permet de les gérer.
Alors justement, vous êtes au plus près de ces entreprises aujourd'hui. Est-ce que dans les appels d'offres auxquels vous répondez, on vous demande de montrer vos engagements sur les sujets RSE? Est-ce que vous êtes sollicité sur ces sujets-là? Est-ce que vous avez des pondérations qui sont faites sur l'obtention d'appels d'offres? Est-ce qu'on peut nous parler un peu de ces sujets-là?
Oui, on a clairement vu là depuis 2 ou 3 ans. Un vrai virage. Alors, nous, on répond pas tant que ça à des appels d'offres. En revanche, on travaille que chez des très grands comptes et les services achats de ces grands comptes. Je dirais qu'ils ont presque complètement abandonné tout ce qui était certification, notamment ISO 9001, même la 14001, pour aller vraiment sur des sujets purement RSE et nous challenger là-dessus. Et j'ai même une petite anecdote, hein, parce que c'est quand même ça qu'on est devenu, nous, société à mission. On a un très, très gros client en revue annuelle achat, qui nous a dit, voilà, c'est super ce que vous faites, vous bossez bien, etc. Par contre, en RSE, c'est une catastrophe et il va falloir évoluer. Et là, moi, j'ai un peu explosé en leur disant, mais vous déconnez ou quoi? On fait ça, 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 ça. Et il me dit, mais pourquoi vous ne nous en parlez pas? Et je dis, parce qu'on ne fait pas ça pour vous, on fait ça pour nous. On ne communique pas dessus parce que on estime que c'est pas l'objectif, c'est pas de communiquer, c'est de faire. Ils nous ont dit, mais c'est vraiment dommage, etc. Et donc, on a mis tout simplement sur papier, on a organisé un petit peu tout ce qu'on faisait. Et même nous, on s'est rendu compte de tout ce qu'on faisait dont on ne se rendait pas forcément compte parce que ça se faisait naturellement, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on est devenu société à mission.
Alors, justement, ça m'intéresse le fameux ça, ça, ça et ça. Est-ce qu'on peut revenir un peu plus dessus, Vincent? Quelles sont les bonnes pratiques aujourd'hui que vous pouvez retrouver, peut-être qui se différencient d'autres entreprises sur ces sujets? Dans la RSE, vous avez effectivement les problématiques de gouvernance, vous allez avoir des problématiques environnementales, sociales, sociétales, même de cœur d'activité. Est-ce que, du coup, comment vous avez structuré les choses? Qu'est-ce qui était déjà dans votre ADN? Qu'est-ce qui a évolué entre-temps? Vous avez récemment été donc labellisé Possible Workplace aussi, donc tous ces... Tous ces outils, j'ai envie de dire, vous ont permis d'avoir une certaine maturité sur ces sujets-là. Voilà, si vous pouvez nous parler un petit peu des politiques que vous avez pu mettre en place, peut-être les rapprocher aussi avec votre mission. Voilà.
Moi, ce qui était dans mon ADN, et puis, mais qui venait déjà de ce que j'avais vécu dans le spectacle vivant, c'est-à-dire donner en permanence, moi, on m'a énormément donné. Je considère que tant qu'on peut... j'allais dire distribuer, en tout cas transmettre, que ce soit matériel ou immatériel, il faut vraiment le faire. Dans les choses qui étaient déjà, qui ont toujours été dans l'ADN d'Iseis, il y a bien sûr la diversité. Et plein de gens me demandent, mais comment vous faites pour avoir une telle diversité? Je suis incapable de répondre parce que c'est un sujet, c'est une question qu'on ne s'est jamais posée. Mais on a 14 nationalités différentes aujourd'hui chez Iseis.
Vu que c'est ce qui m'avait marqué lors de la première réunion de lancement, une diversité des interlocuteurs qui était extraordinaire. Et ça, c'était, on a quand même l'habitude de voir beaucoup d'entreprises et ça a été vraiment un point très fort, j'avoue. Et c'est justement un sujet qui serait vraiment intéressant de structurer parce que c'est énormément d'entreprises se posent ces questions-là. Comment je peux promouvoir la diversité alors qu'elle est naturelle chez vous? Donc, est-ce que c'est au niveau de la manière de recruter? Est-ce que c'est au niveau des cooptations qui sont mises en place dans l'entreprise? Est-ce que c'est les critères de sélection peut-être qui sont plus ouverts? J'aimerais qu'on fasse un focus sur cette diversité parce que c'est un vrai enjeu. Voilà.
Alors, on me pose souvent la question et comme je suis incapable de répondre, j'ai posé la question à mes équipes, moi. Et la première réponse, c'est qu'en fait, on refuse personne déjà. Enfin, il n'y a vraiment aucun critère. Et notamment hein, depuis le premier jour, moi, le premier salarié que j'ai recruté, j'ai mis de côté les CV. Enfin, le CV, il sert à ce que la personne vienne en entretien, parce qu'il faut quand même avoir un minimum d'infos. Mais après, une fois qu'elle est en entretien,
quand même aussi, non ? Un minimum de formation et de diplôme quand même aussi.
Honnêtement, non. Non, comme je dis dans mes conférences, si les gens qui viennent en entretien avec moi, ils connaissaient mon CV, ils viendraient certainement pas. On n'a pas envie d'être embauché par un ancien clown. Donc c'est pas ça. Moi c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce qu'est la personne. C'est pas ce qu'elle a fait avant. C'est ce qu'elle va devenir avec nous, quoi. Et qu'est-ce que nous, on va mettre comme énergie pour qu'ensemble, on progresse. Et donc, il n'y a plus d'histoire d'origine, d'âge, de plein de choses. Ce qu'elle a fait avant. Alors, bien sûr qu'il faut un minimum. Il faut que ça matche. Quelqu'un qui a été uniquement cuisinier, je suis pas sûr qu'il serait bon dans nos métiers, encore que, parce qu'on est dans des métiers de rapport humain. Donc, tout dépend de toutes ces choses-là. Quand même, un point que m'a remonté ma DRH, c'est qu'on fait énormément d'efforts, notamment pour des salariés étrangers, pour leur donner un coup de main à obtenir les papiers français. Donc voilà, c'est un petit boulot, c'est du temps, c'est un peu, mais après, une fois qu'on est dans la gymnastique, c'est intéressant pour eux. Et puis pour nous, ça nous permet d'avoir des salariés compétents et en tout cas de les trouver. Beaucoup de gens pourraient se dire, ah bah oui, mais alors le risque, c'est qu'une fois qu'il a les papiers, merci, au revoir. Ça ne s'est jamais produit, donc a priori, faut qu'on continue. Voilà.
Et alors justement, est-ce que vous avez sacralisé cette valeur dans votre mission? Est-ce que déjà, on va faire un petit focus parce que Comme vous l'expliquez, vous êtes société à mission, donc c'est évidemment des sujets qui nous parlent. Est-ce que vous pouvez déjà nous dévoiler votre mission et puis les indicateurs que vous avez mis en face et objectifs?
Bah, notre mission, elle est relativement simple parce que c'est déjà le cœur de notre métier. Donc vraiment, notre raison d'être, c'est d'être un acteur incontournable de la santé tout au long de la vie des citoyens. C'est-à-dire de pas s'arrêter juste aux portes de l'entreprise, mais d'une manière générale, parce qu'on sait que quand les salariés sont en bonne santé dans l'entreprise, forcément, ils le sont tout au long de leur vie. Donc j'allais dire, c'est un petit peu la facilité, c'est que notre métier est presque une raison d'être, c'est-à-dire que on agit pour la bonne santé et la sécurité des salariés. De manière beaucoup plus opérationnelle, nos trois enjeux forts, mais qui étaient déjà en fait, j'allais dire, inscrits dans notre ADN, mais qu'on a inscrits maintenant dans nos statuts, c'est un, favoriser l'évolution interne, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on a une ouverture de poste, on privilégiera toujours, toujours l'évolution interne. Donc ça,
Ah,
c'est
ça, c'est écrit dans vos statuts, ça,
ouais,
aujourd'hui.
c'est écrit dans nos statuts. Et ça, c'est important parce que c'est la plus grande des fiertés, c'est de voir les gens évoluer dans l'entreprise, être là depuis 10, 15 ans et de voir où est-ce que les gens ont démarré, où ils sont aujourd'hui. Et pour moi, c'est le plus facile des recrutements. On connaît par cœur les qualités et les défauts de la personne. Donc, on n'a pas à se mentir. On sait exactement jusqu'où il peut aller, à condition que nous, encadrement, on y mette l'énergie. Mais c'est tellement compliqué de miser sur une personne et de se dire dans 10 ans, on sera là, alors qu'il y a 10 minutes, on ne le connaissait pas. Alors que là, on a les gens en interne. Donc, ça, c'est inscrit dans nos statuts. Ce qui est inscrit aussi, c'est qu'on reverse 5% de nos bénéfices à une association choisie par les salariés. Globalement, c'était un chiffre qui existait depuis le début chez Iseis. On a toujours aidé, fait du mécénat, mais ce n'était pas cadré. Donc là, on a inscrit un montant.
C'est quoi le montant cette année, par exemple, que vous avez...
Ça va être entre 25 et 30 000 euros.
Pas négligeable, hein? Combien de salariés fait votre société aujourd'hui?
Là, on est 96, 17. Ouais.
D'accord, donc ça fait quand même...
On sera un peu plus d'une centaine à la fin de l'année. Donc voilà, ça motive aussi tout le monde. Et puis l'idée, c'est aussi pas que ce soit juste un versement d'argent, mais qu'on soit vraiment acteur vis-à-vis de cette association qui est Magie à l'hôpital. Et puis le troisième objectif, là pour le coup, est beaucoup plus compliqué, qui est environnemental, c'est de travailler sur nos déplacements. Pourquoi je dis que c'est compliqué? C'est qu'au niveau environnemental, on avait énormément fait de choses depuis 2010. On est une entreprise de service, donc notre impact, il est assez limité et très ciblé déplacement. Que ça fait depuis 2010 qu'on n'a plus de papier, ça fait depuis des années qu'on travaille sur des économies sur nos serveurs, etc. Plein de petites choses qu'on retrouve en entreprise. Les gens ont leur tasse individuelle alors que leur prénom marqué dessus. Donc en fait, non seulement on n'utilise plus les gobelets en plastique, mais en plus chacun nettoie sa tasse parce que quand il y a une tasse pourrie qui traîne quelque part, bah, il y a le nom de Yann.
Circuler.
Voilà.
Ok, c'est une bonne pratique.
Et les déplacements, bah, c'est la difficulté parce que nos clients nous payent et nous aiment bien parce qu'on est très présent chez eux sur leur site. Donc de dire bah, on va moins se déplacer. Mais on travaille sur, malgré tout, toute une réorganisation de notre travail pour avoir moins de déplacements, parce que c'est notre principal danger aussi. Et au niveau de l'impact environnemental, oui, ça doit faire 7 ou 8 ans qu'on a des véhicules hybrides, en tout cas sur Paris. En province, c'est un peu plus compliqué du fait des distances. Et aujourd'hui, on doit avoir une petite vingtaine de véhicules électriques. Donc voilà,
Vous avez fait votre bilan carbone?
on est en train de faire notre bilan carbone justement pour évoluer et en espérant obtenir notre troisième étoile Positive Workplace et puis pour avoir voilà un regard j'allais dire extérieur sur cet impact parce que c'est là où on a un peu plus de mal à bosser.
Alors, moi, j'ai une question, Vincent. Comment c'est perçu par... Alors, c'est une question double, désolé. Comment c'est perçu par vos collaborateurs, déjà, cette démarche? Je parle pas forcément de Positive Workplace, mais globalement, c'est la votre démarche RSE. Et comment c'est perçu par vos candidats? Est-ce que vous pensez qu'il y a un impact finalement, ou est-ce que finalement c'est l'ADN depuis le début de l'entreprise, que ça n'a pas plus d'impact? Quels sont les effets, les leviers positifs de cette démarche-là?
Alors, c'est très différent. Je dirais que pour l'instant, on ne communique pas assez dessus. Notre plus gros défaut, c'est qu'on ne communique pas dessus parce que c'est tellement naturel dans notre ADN qu'on a toujours fait ça, qu'on n'a pas l'impression que c'est différent d'une autre entreprise, en fait. On ne se rend pas compte.
Et est-ce que le naturel ne serait pas la version cachée du professionnalisme et d'un très bon professionnalisme? Quand on voit des grands sportifs, on a l'impression que c'est naturel, mais c'est des heures et des heures de travail derrière.
Oui, mais enfin, clairement, hein, quand je dis ça, c'est pas, on ne se pose pas la question, mais ça fait tellement longtemps. Donc, je dirais, en interne, il y a des gens à qui on va demander, et presque ils ne se rendent pas compte, parce que ça fait 20 ans qu'on fait ça, donc ils n'ont pas l'impression que c'est forcément nouveau. Pour attirer des talents, on bosse beaucoup sur la com par rapport à ça, mais des fois on est un peu gêné parce qu'on a l'impression qu'on en fait trop alors qu'on est juste en train de dire ce qu'on fait. Mais on a encore ce sujet-là, il faut qu'on communique mieux. En revanche, quand un salarié rentre, ce qui est génial, c'est que j'ai 95 ambassadeurs, donc c'est pas très compliqué de tout de suite les piquer à tout ça parce que tous les autres sont convaincus. Donc ça, c'est une vraie facilité. Voilà. Mais il faut qu'on travaille là-dessus. Mais moi, c'est vraiment c'est honnêtement, hein, plus que bien sûr l'argent ou les projets, c'est ça qui me fait triper, c'est de pouvoir transmettre aux salariés, mais à d'autres, faire le bien autour de soi. Enfin, honnêtement, il n'y a pas plus grisant. Moi, j'ai vécu ça dans le spectacle vivant, donner du bonheur aux gens, quand vous voyez dans les yeux d'un enfant ce bonheur-là, et vous dites, c'est moi par mon travail et mon savoir-faire qui est procuré ça. C'est la plus grande richesse du monde, honnêtement.
Ordinaire. Alors, Vincent, avant de terminer ce podcast, moi, j'aimerais qu'on revienne sur une notion qui vous anime. Je vois souvent vous parler d'équilibre. Ouais. Pourquoi?
C'est lié. C'est bien sûr un jeu de mots. Avec mon ancienne vie, mais c'est un terme qui est très très présent chez moi. L'équilibre vie pro vie perso, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé depuis le premier jour. Alors grâce à ma femme qui m'a tout de suite drivé là-dedans.
Avec trois entreprises et trois associations que vous dirigez, vous arrivez à trouver
et trois enfants.
Et trois enfants. La Trinité.
j'ai vraiment travaillé là-dessus, réellement, hein, ça fait depuis plus de 15 ans que je coupe mon téléphone en arrivant chez moi, que j'ai pas de téléphone ni de mail pendant mes 3 semaines de vacances et que ça se passe et que j'arrive vraiment à couper complètement. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai été obligé de déléguer, de faire confiance aux gens avec qui je bosse et c'est comme ça qu'ils ont évolué aussi et que les trois quarts aujourd'hui sont bien meilleurs que moi. Dans tout ce qu'on fait, donc c'est génial en fait. Mais ça, donc
c'est la mission d'un dirigeant. Hein.
C'est clair. Ouais, je suis très très attentif à cet équilibre-là. Du coup, je suis super content chaque matin quand je retourne au boulot parce que j'ai pu couper pendant une nuit, pendant un week-end, etc. Ça fait honnêtement, ça fait plus de 20 ans que j'ai pas bossé un week-end, quoi. Et puis l'équilibre, bah parce que c'est un bon équilibre, donc des bonnes bases. Qui permettent ensuite de se déséquilibrer, parce que quand même, le rôle d'un chef d'entreprise et de tout manager, c'est de se déséquilibrer. Et tant qu'on ne se déséquilibre pas, on n'avance pas. Sans forcément prendre trop de risques, parce qu'on embarque des gens avec soi. Mais voilà, le déséquilibre ne peut avoir lieu que si on a un bon équilibre et si on sait qu'à tout moment, quand le déséquilibre est trop important, on sait se rééquilibrer parce que justement, on a ces bonnes bases. Alors, je pourrais vous l'expliquer encore pendant des heures, mais c'est tout le principe de l'équilibre, c'est être aligné. On entend parler d'alignement, être aligné. La base de l'équilibre, c'est ça. Si vous voulez être en équilibre sur un fil, pour marcher sur un fil, il faut être en équilibre. La tête, les épaules et les pieds, et c'est le seul moyen. Si on ne tient pas en équilibre, c'est qu'on est tordu et ce n'est pas bon.
Alors, j'aime bien terminer nos podcasts par « Est-ce que vous avez un conseil ?» Mais je crois qu'on l'a eu, notre conseil. Donc, je vous terminerai tout simplement peut-être un film ou un podcast ou un livre que vous avez pu consulter qui vous a marqué récemment.
Bah, C'est pas qui m'a marqué récemment, c'est qui m'a marqué toute ma vie. C'est le film Itinéraire d'un enfant gâté, film extraordinaire de Claude Lelouch avec Jean-Paul Belmondo notamment, et qui raconte tout ça, cette notion de transmission. Alors, l'anecdote, c'est qu'en plus, dans ce film, Jean-Paul Belmondo est un petit garçon qui a été recueilli dans un cirque et qui a tout appris dans cette vie. Et puis après, qui a transposé ça dans la vie de l'entreprise et qui transmet, voilà, toutes ces valeurs qu'il a apprises. Enfin, c'est vraiment un film extraordinaire. Et puis, j'ai eu la chance, là, il y a quelques jours, de rencontrer Claude Lelouch, qui nous a expliqué un petit peu pourquoi et comment il avait conçu ce film. Et il y a plein d'anecdotes extraordinaires. Et vraiment, c'est un film qui devrait être diffusé à tous les managers, parce que c'est une école de management. Avec tout ce que ça comporte aussi justement de RSE dans la notion de transmission et de faire le bien autour de soi.
Génial. Un immense merci Vincent pour votre témoignage. C'était un voyage à la fois culturel, intellectuel et managérial. Vraiment touchant par cette simplicité, cette authenticité. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu vous interroger dans ce podcast, parce que je trouve que vous représentez bien aussi cette communauté qui anime aujourd'hui, qui est animée par Positive Workplace, cette notion vraiment de sens des choses, quoi, dans ce qu'on fait dans notre quotidien et dans cette volonté de transmettre et de faire le bien autour de soi. Merci Vincent pour
Merci.
votre témoignage. N'oubliez pas, si cet épisode pardon, vous a plu, de vous abonner à notre chaîne et de liker cet épisode. Merci beaucoup et rendez-vous le mois prochain pour notre prochain épisode Positive Workplace. Au revoir.